Place Info.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité politique de France Info à 8h30. Comme chaque matin à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT, notre invité aujourd'hui est au cœur de l'actualité. Elle est brûlante d'ailleurs. Pierre Canet, responsable climat du WWF France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Bonjour Naïla Latrousse.
Bonjour Julien.
C'est vous qui allez poser la première question à notre invité.
Hier soir, le WWF que vous représentez a annoncé boycotter le sommet du G7 à Biarritz. On a eu le sentiment qu'il y avait quelques doutes. Est-ce que la nuit a porté conseil? Est-ce que votre décision est prise ce matin?
C'est le bazar. C'est-à-dire que depuis des semaines, il y a des discussions qui sont engagées avec les ONG environnementales pour un vrai dialogue au cœur du G7. Et finalement, l'Élysée nous a répondu hier qu'on aurait des accès supplémentaires qui avaient été demandés depuis des semaines. C'était chose simple. Alors maintenant, chaque organisation du réseau Action Climat décidera oui ou non de participer, mais maintenant c'est un peu tard, puisque pour s'organiser, vous en doutez bien, on a entendu les niveaux de sécurité très élevés sur Biarritz, le taux de participation, donc ça sera difficile de s'organiser, mais ce qui nous intéresse face à ce bazar, c'est de pas détourner le regard du sommet, et ce sommet, il est très important parce que les membres du G7 ont une responsabilité en tant que grandes économies, pays les plus industrialisés du monde. Le WWF estime à peu près à 3,4 planètes la consommation de ressources naturelles de ces pays, donc c'est bien dire qu'au-delà de ces enjeux logistiques, de ces problèmes d'invitation de la société civile au sein du G7, il y a des vrais sujets qui sont au cœur de nos actions.
On entend bien et on va revenir d'ailleurs sur ces sujets dans le détail au cours de ces 20 minutes.
Du coup, le WWF ira au déjeuner avec le président de la République aujourd'hui pour lui dire directement à l'Élysée. Notre président portera haut et fort. À Biarritz, c'est pas encore sûr.
Voilà. D'accord. Est-ce que c'était bien raisonnable de se battre, pas dire pour des queues de cerises, mais enfin, vu l'urgence de la situation, est-ce que il fallait faire ce type d'action?
L'urgence de l'action, c'est les demandes que l'on porte depuis des mois. Mmh. C'est aussi vis-à-vis des G7, on l'a vu la dernière fois en France, le G7 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et bien une société civile qui est invitée autour de la table. Là, on le voit, ça n'a pas été le cas. Donc nous avons...
Il y a eu le G7 environnement en mai, hein, à Metz.
Il y a eu le G7 environnement où effectivement nous étions présents. Et donc on ne comprend pas pourquoi du G7 environnement au sommet du G7, et bien finalement les ONG environnementales n'ont pas forcément été écoutées sur les demandes.
Donc, vous avez senti du mépris?
Peut-être une désorganisation, donc je le disais, du bazar. Donc maintenant, on va dire, tournons la page sur le fait que ce G7, il commence dans 24 heures. Il y a des enjeux, je le disais, très importants vis-à-vis de la dégradation de l'environnement. On le voit aujourd'hui avec l'Amazonie en flammes. Ça nous touche beaucoup en tant qu'ONG environnementale mobilisée aussi dans la région. Et les pays du G7 ont une responsabilité face à ces flammes, puisque... cette région, elle est sous pression aussi par les importations de ces pays du G7. On pense par exemple aux cultures de soja ou même au bétail dans la région qui conduisent à la déforestation. Et les membres du G7, par cette consommation de l'équivalent de 3,4 planètes, doivent arrêter des décisions. Et ce qui me fait peur, là maintenant, à l'instant où je vous parle, ça n'est pas forcément l'accès au Media Center ou le centre qui nous sera alloué là-bas sur place. Ce sont les décisions face à ce constat.
Qu'est-ce que vous attendez justement? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous attendez précisément?
Aujourd'hui, la présidence française a inventé un nouveau format de G7, c'est-à-dire un format plus dilué, un multilatéralisme qui se retrouve autour de coalitions, des initiatives, avec notamment beaucoup d'entreprises qui seront présentes à ce G7.
Et donc, qui annonce 1 milliard pour financer notamment des programmes de co-développement, de justice sociale et de développement climatique.
Avec des annonces qui doivent aller plus et au-delà d'un milliard. On attend 100 milliards d'ici à 2020. La promesse, on en est loin. Il y a quelques dizaines de milliards d'écart par rapport à ce qui avait été acté il y a 10 ans par ces mêmes pays développé. Donc, on attend plus que ce milliard. Mais la question, c'est de se dire, y aura-t-il finalement un texte qui permettra d'engager tous les acteurs du G7, tous ces membres du G7?
Ça, c'est ce que vous demandez, ça.
Oui, car nous avons eu là un an marqué avec les citoyens très fortement mobilisés suite au rapport du GIEC scientifique sur 1,5 degré Celsius qui nous montre cette petite fenêtre de 5 à 10 ans pour véritablement accélérer la transition. Le rapport sur l'état de la biodiversité, se dire ces 40 dernières années, eh bien, on a détruit 60% des espèces sauvages sur Terre. Notre modèle de consommation et de production a détruit cette biodiversité. Et donc les chefs d'État et de gouvernement, qui représentent les pays les plus industrialisés dans le monde, à ce G7, vont-ils acter par des mots, non pas des paroles, des mots, du langage qui puisse être dans un texte, eh bien leur engagement à mettre fin à inverser la tendance vis-à-vis de cette destruction de la biodiversité et au changement de modèle. Un exemple suite aux déclarations du président de la République hier qui en appelle aux membres du G7 pour être au chevet de l'Amazonie. Être au chevet de l'Amazonie quand on est membre du G7, c'est de se remettre en question vis-à-vis des importations de cette région. C'est de se dire, le soja importé en France pour nourrir du bétail, c'est un non-sens.
Vous demandez la suspension des importations ?
On demande effectivement que ces importations qui vont être accélérées par le traité, par l'accord Mercosur. C'est un non-sens parce que ce soja qui est cultivé dans les régions du Brésil qui sont actuellement touchées par les feux, ces feux qui sont liés à une déforestation accélérée ces derniers mois, eh bien malheureusement, ce soja contribue à la déforestation, il nourrit le bétail, alors même que nous avons en France et dans l'Union européenne la possibilité de nourrir autrement notre bétail. Nous avons une agriculture alternative qui est poussée par les ONG et des agriculteurs et qui pour l'instant ne se retrouve pas dans les décisions du G7 et ne se retrouve pas non plus dans les textes passés en France, notamment la loi sur l'alimentation ou la loi qui arrive sur l'anti-gaspillage et qui sera à l'Assemblée nationale en septembre.
Mais la France ne peut pas s'isoler du monde.
La France ne peut pas s'isoler du monde et c'est bien pour cela qu'elle doit entraîner d'autres acteurs. On pense par exemple au Royaume-Uni, on pense à l'Allemagne, ces acteurs même européens. Comment, au sommet du G7, acteront-ils collectivement eh bien que cet accord du Mercosur, qui vise une alliance entre l'Amérique latine et l'Union européenne en matière commerciale, mais qui n'a pas de garde-fou vis-à-vis de ces importations qui compromettent l'avenir de la région, qui compromettent l'état de la biodiversité dans cette région, eh bien sans ces garanties, malheureusement, nous restons dans un modèle de développement habituel du G7, et il n'y a donc pas de remise en question de la production et de la consommation de ces mêmes pays très industrialisés.
On va revenir sur ces incendies qui frappe l'Amazonie, l'urgence d'une intervention, une mobilisation internationale, des sportifs aussi, des chefs d'État, des célébrités. On va y revenir avec vous dans un instant, avec le président brésilien aussi qui tient des propos polémiques et qui vous accuse, vous, entre autres, les ONG. On y revient juste après le rappel de l'info, 8h40, avec Lauriane Delanoë.
Biarritz sous haute surveillance à la veille du G7, le dispositif de sécurité mis en place depuis cette nuit. Le sommet des dirigeants des grandes puissances commence demain au Pays Basque et dès cet après-midi, les représentants du Youth Summit, les jeunes pour ce sommet, vont remettre une centaine de propositions à Emmanuel Macron. Nous avons peur de ce G7 qui peut nous faire perdre espoir dans notre capacité collective à gérer les défis planétaires, confie ce matin sur France Info le coprésident de ce groupe. L'un de ces défis, ce sont les incendies qui ravagent l'Amazonie. Notre maison brûle littéralement, affirme le président Emmanuel Macron sur Twitter. Il appelle à une mobilisation internationale. L'opposant russe Alexei Navalny vient de sortir de prison. Le blogueur anticorruption a passé 30 jours en détention, arrêté pour avoir appelé à une manifestation interdite. L'un des footballeurs de Strasbourg parle sur France Info du meilleur match de la saison qui ne fait que commencer. Le Racing prend l'avantage dans les barrages de Ligue Europa avec une victoire 1-0 face à Francfort hier soir en match aller.
France Info. Notre invité aujourd'hui, Pierre Canet, responsable climat du WWF France. Nous allons revenir sur ces incendies qui frappent l'Amazonie. Notre maison brûle, a dit Emmanuel Macron en référence aux mots de Jacques Chirac il y a déjà de cela beaucoup de temps. Et pour le président brésilien, Jair Bolsonaro, c'est un peu de votre faute. Écoutez.
À quoi standard ?
Concernant les feux en Amazonie, j'ai l'impression qu'ils ont pu être allumés par des ONG, parce qu'elles ont demandé de l'argent. Quelles étaient leurs intentions, sinon apporter des problèmes au Brésil ?
Une réaction à cette déclaration, Pierre Canet ?
Oui, on a regardé tous les financements qui étaient effectivement potentiellement coupés ou versés par l'État. Et on voit que ce gouvernement ne finance que quelques pourcentages des ONG. Donc si on avait et s'il y avait tant intérêt à collecter des fonds, ça n'est pas du côté du gouvernement et l'État brésilien. Donc le président finalement dénonce, se trouve un bouc émissaire, alors même que justement depuis un an, la déforestation s'est accélérée dans la région. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les images satellites aussi. Donc il est facile de voir que ces feux de forêt sont liés à une déforestation et donc s'étendent dans l'ensemble de la région avec 10 sites qui ont été très touchés depuis l'année dernière par la déforestation. Couper du bois, la culture ensuite du brûlis et puis ces feux de forêt contaminent l'ensemble de la région.
Mais concrètement, que peut faire le monde ? Parce que dès que les ONG veulent agir, les États, le Brésil leur oppose sa souveraineté ?
Il y a cette souveraineté, et cette souveraineté, ce sont les Brésiliens. Les Brésiliens sont en première ligne de cette déforestation, en première ligne de ces feux de forêt. Il faut bien se dire que la population brésilienne, eh bien, paye les frais de ces feux de forêt. On le voit par exemple avec Sao Paulo plongé dans le noir, une qualité de l'air très mauvaise, donc pour la santé.
Il y a des manifestations qui sont prévues d'ailleurs aujourd'hui.
Les populations également qui vivent dans ces régions qui sont chassées, on pense aussi aux peuples autochtones. Donc nous avons, et nous pensons aux Brésiliens d'abord, c'est également de se dire que les solutions, elles sont effectivement au Brésil, avec une société civile très mobilisée, des pétitions qui ont été lancées, et puis des manifestations. Il faut bien aussi réfléchir au rôle des entreprises, le monde économique. Il y a des entreprises françaises, elles sont nombreuses, à avoir une responsabilité en lien avec cette déforestation. Et donc, l'important, c'est de faire en sorte que ces mêmes entreprises du CAC 40, eh bien, changent de stratégie et de politique dans la région, évitent ces prélèvements sur la nature et nous permettent d'avancer. C'est une pression à laquelle le gouvernement brésilien sera très sensible, la pression des investisseurs, la pression du monde économique. Et justement, ce G7, il doit placer la question des investissements pour la nature, éviter que les investissements actuels, que la finance détruisent cette nature. Nous regarderons de près les résultats du G7 en lien avec ce sujet.
L'ancienne ministre de l'écologie brésilienne, Marina Silva, parle de crimes contre l'humanité. Est-ce qu'il faut internationaliser l'Amazonie? Est-ce qu'il faut créer un statut spécial autour de cette forêt qui est le poumon de la planète?
Avec ou sans ce président, il a toujours été, on a eu le sommet de la Terre en 92, un autre sommet en 2012, Rio+20, et cette question de l'Amazonie a toujours été sensible au Brésil. Donc avec ou sans Bolsonaro, c'est bien d'avoir en tête que l'Amazonie est un sujet qui touche l'ensemble de la région. L'Amazonie n'est pas seulement brésilienne, on pense aussi à la Bolivie,
elle
au Pérou. Et donc parce qu'elle est à 60% brésilienne, elle doit effectivement conduire à un accord qui puisse être régional pour la protéger et des décisions de la part des entreprises, notamment européennes, américaines, qui viennent prélever de la nature, prélever des ressources dans cette même région. Donc si accord international, c'est surtout un accord et des engagements de la part de ces acteurs économiques de façon à sortir de cette région.
Vous allez les dénoncer nominativement, ces acteurs?
Elles ont été déjà dénoncées dans des rapports. On a des classements liés notamment à leurs approvisionnements qui témoignent effectivement du problème actuel dans la région de voir ces mêmes entreprises prélever des ressources en Amazonie.
Il y a une mobilisation internationale des sportifs, Cristiano Ronaldo, le footballeur, Kylian Mbappé également, et puis des stars internationales, des chanteurs, des chanteuses. Est-ce que vous allez essayer de mobiliser plein de secteurs comme ça dans le monde entier pour réagir à ce qui se passe au Brésil ou pas?
Ce qui est clair, c'est qu'on a vu un élan très fort autour de Notre-Dame. De partout, le monde entier interloqué par Notre-Dame et par ses feux. Le WWF UK a pointé, fait le lien de l'étranger, en tout cas pas de l'étranger.
Pardonnez-moi, je vois pas le lien, mais...
Alors, vous avez là un édifice culturel qui est inscrit au cœur de Paris.
Oui.
Cet édifice, il parle à tout le monde. Le lien, il est face au patrimoine. On pense au patrimoine culturel. Eh bien, cette Amazonie, c'est un patrimoine pour l'humanité. C'est de 50 à 70% de notre biodiversité. C'est de se dire qu'une fois détruit, on ne pourra reconstruire. C'est de se dire que cette biodiversité, elle doit, dans la mobilisation autour, mobiliser, je parlais des entreprises par exemple, elles ont été au chevet de Notre-Dame. Seront-elles ces entreprises au même chevet de l'Amazonie par ces feux de forêt en prenant des engagements contre la déforestation et en mettant en œuvre également des engagements qui puissent être chiffrés. Donc ce parallèle, il est seulement sur le fait qu'il y ait une mobilisation qui soit inscrite très rapidement.
D'accord.
Ça a mis du temps,
et,
vous voyez.
Et sur des moyens financiers.
Moyens financiers. Actuellement, il n'y a pas de moyens financiers qui soient suffisamment mobilisés pour contrer cette déforestation à l'œuvre dans la région.
Est-ce que la France est à l'abri de ces catastrophes climatiques?
La France, on l'a vu, est traversée par des vagues de chaleur, des canicules depuis plusieurs années, des températures records. Et c'est dire que ces canicules ont et commencent à vraiment au quotidien toucher les Français, de réaliser que nous sommes en train de vivre un monde à plus 1 degré avec des bouleversements météorologiques et climatiques et que nous attendons aussi de la France de porter l'exemple en matière d'engagement climatique. Elle vise la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire un monde, une société sans carbone.
Le projet de loi climat énergie qui doit être
aujourd'hui, malheureusement, c'est de savoir quelle est la trajectoire qui nous permettra d'atteindre clairement ce zéro carbone, car nous n'avons pas, parlons de la rénovation des bâtiments, nous n'avons pas d'obligation aujourd'hui à ce que les propriétaires ne laisse pas à des locataires.
C'est un sujet différent, Pierre Canellat.
Des passoires énergétiques.
En l'occurrence, sur la catastrophe climatique, sur les forêts françaises, est-ce qu'il y a urgence, est-ce qu'il y a un danger de voir ce qui se produit en Amazonie se produire en métropole?
Alors, ce qui se produit en Amazonie, le gouvernement actuellement au Brésil pointe du doigt les sécheresses. Non, les feux de forêt aujourd'hui, ça n'est pas le dérèglement climatique, c'est la déforestation, l'accélération de la déforestation. Ce qui se passe en France, bien entendu, les sécheresses vont accélérer ces feux de forêt. Ce sont donc des moyens pour contenir ces feux de forêt qu'il faut et qu'il faudra mobiliser davantage.
Est-ce qu'il n'y a pas un procès injuste quand même que vous faites à Emmanuel Macron? Vous dites qu'il ne va pas assez loin. Mm-hmm. On a vu en juin dernier Édouard Philippe qui décrétait par exemple l'urgence climatique dans son discours de politique générale.
Non,
parce qu'il y a des mots, il y a des actes, il y a des lois.
Il y a des lois qui ne vont pas assez loin. Il y a des lois qui marquent parfois des reculs. On l'a vu sur la loi énergie-climat. On l'a vu également sur l'alimentation avec un discours à Rungis du président de la République très avancé sur la transformation du modèle agricole. Et puis, une loi qui a suivi et qui n'intègre que très peu d'avancées pour les agriculteurs, pour la transformation de notre système alimentaire et agricole.
C'est le poids des lobbies, comme disait Nicolas Hulot lors de sa démission.
Clairement, le glyphosate, c'est un exemple. Oui, la loi sur le même sujet n'intègre pas
la réalité aussi, peut-être s'adapter à la réalité.
Réalité, j'en parlais, ce sont les canicules.
Oui.
La réalité, on en parle aussi.
Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'alternative rapidement.
Toutes les solutions sont là. On a aujourd'hui une accélération. Un exemple très simple du quotidien, le vélo. Lorsque vous mettez en place des infrastructures de vélo, on le voit dans des grandes villes comme Strasbourg, comme par exemple Bordeaux ou Grenoble, eh bien, de nombreux citoyens prennent le vélo. Ce sont des centaines de milliers de Français qui choisissent le vélo. On le voit aussi dans le bio. Il y a un boom de l'agriculture bio avec notamment une consommation très forte des Français du bio. Donc, c'est bien dire que les solutions sont là. Et lorsqu'elles sont portées par les citoyens, il y a signe que nous pouvons avancer cette transition écologique. Maintenant, c'est avoir le courage de passer des mesures et des responsabilités, car les citoyens ne peuvent pas à eux seuls porter la responsabilité dans leur quotidien d'un système qui ne marche pas. Pensons par exemple aux pollutions plastiques. Les plastiques qui sont véritablement mis sur le système, mis dans le marché, sont en train de nous étouffer. On a une boulimie de plastique et la France, avec ses 4,5 millions de tonnes de plastique produit, eh bien, a une responsabilité également dans l'encadrement du plastique. La loi qui est sur la table actuellement par le gouvernement anti-gaspillage économie circulaire, qui passera à l'Assemblée nationale au Sénat en septembre, ne comporte aucun objectif chiffré pour lutter contre les pollutions plastiques et réduire à la source ce problème. Avec moins de plastique, on est les champions des bouteilles plastiques au niveau mondial. On consomme trop de plastique. Or, le gouvernement n'avance que trop peu de mesures pour y faire face.
Merci Pierre Canet, responsable climat du WWF France, d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Lundi, à cette même place, vous retrouverez Marc Fauvel et Renaud Dely.